Alors, la Coupe du Monde de la FIFA 2030, co-organisée par le Maroc. On pourrait penser que c'est, bon, c'est juste du football, des stades, des touristes.
La grande fête habituelle, quoi.
Exactement. Mais en réalité, c'est bien plus. C'est un vrai compte à rebours national, une échéance qui force tout un pays à se transformer et à une vitesse folle.
C'est un formidable coup de pression. Et cette pression, elle ne s'exerce pas que sur les infrastructures qu'on voit, comme les routes ou les hôtels. Elle met en lumière des failles beaucoup plus profondes, des défis critiques qui touchent directement à la sécurité des gens.
Et c'est exactement là-dessus qu'on va se pencher aujourd'hui. On a sous les yeux le numéro de novembre 2025 du magazine marocain L'ODJ Images.
Oui.
Et ils ont un dossier spécial qui ne parle pas de stade, mais d'un sujet beaucoup plus vital, la refonte totale des services d'urgence médicale.
Un enjeu qui, au fond, n'a presque rien à voir avec le football. La vraie question, c'est de savoir si le Maroc peut profiter de cet événement planétaire pour construire un système de santé d'urgence qui sauvera des vies, bien après que les trophées auront été soulevés.
Voilà. C'est ça qui est fascinant et c'est ce qu'on va creuser. C'est de voir comment cette Coupe du Monde agit comme un catalyseur. On va décortiquer le diagnostic sans concession du magazine, le plan d'action qui ressemble à une course contre la montre et les solutions qui sont sur la table. Alors, pour commencer, le tableau clinique, il est grave, docteur.
Disons qu'il est préoccupant. L'éditorial du magazine met les pieds dans le plat, d'entrée de jeu. Il rappelle qu'un rapport du Conseil économique, social et environnemental, le CSE, avait déjà sonné l'alarme il y a 2 ans.
Et donc les problèmes ne sont pas une découverte. On savait déjà.
On savait, ils sont bien connus.
Et qu'est-ce qui cloche principalement alors, selon eux?
Le problème central, c'est la fragmentation. Un article sur la modernisation du SAMU, le service d'aide médicale urgente, décrit le système comme un archipel d'initiatives. Rien ne communique.
D'accord.
Il n'y a pas de numéro d'appel unique et simple comme le 15 en France, que tout le monde connaîtrait par cœur.
C'est la base, pourtant. Si on ne sait même pas qui appeler, toute la chaîne de secours s'effondre avant même d'avoir commencé.
Et c'est exactement ça. Le SAMU, le 141, existe depuis 2011, mais sa notoriété est très faible.
Personne ne le connaît.
Et pire, sa couverture territoriale est lacunaire. Le dossier parle de seulement 9 centres opérationnels. Pour tout le pays.
Neuf.
Neuf. Imagine ce que ça donne dans les zones rurales.
J'imagine que ça ne donne pas grand-chose. Et au-delà de cette fragmentation, il y a la question des moyens, j'imagine. Le matériel, le personnel.
C'est là que les chiffres donnés par le magazine font vraiment mal.
Ah oui.
Un article sur le transport sanitaire balance un chiffre choquant. Au Maroc, il y a une ambulance pour 47 122 habitants.
Attends. Attends. Une. Pour presque 50 000 personnes?
Oui.
Pour comparer, c'est quoi la norme en Europe? On a une idée?
C'est difficile de comparer directement, mais on est plus proche d'une pour quelques milliers d'habitants. L'écart est abyssal.
Concrètement, ça veut dire quoi?
Ça veut dire des délais d'intervention qui peuvent se compter en heures, pas en minutes.
Et le secteur privé? Il ne compense pas ce manque?
Il existe, oui, environ 310 entreprises. Mais c'est un peu le Far West. L'article explique que la majorité de ces boîtes opèrent sans statut juridique clair, sans régulation.
Aucune coordination avec le public, donc.
Aucune. C'est le système D, mais à l'échelle d'un enjeu de vie ou de mort.
C'est effrayant, mais le matériel, ça s'achète. Le plus dur, c'est l'humain. Et là-dessus, le diagnostic est comment?
C'est le cœur du problème. Et attention, le chiffre est violent.
Je suis prêt.
Depuis la création de la spécialité de médecine d'urgence, seuls 29 médecins urgentistes ont été formés dans tout le pays.
Pardon, j'ai mal entendu. Tu as dit 29?
29.
Pour des dizaines de millions d'habitants et des millions de touristes attendus. Ce n'est pas possible.
C'est écrit noir sur blanc, 29, et à peine 460 infirmiers spécialisés en soins d'urgence. C'est dramatiquement insuffisant.
Donc le diagnostic est clair, un système éclaté, sous-équipé et surtout sans les troupes qualifiées pour le faire fonctionner.
Voilà.
Bon, le tableau est sombre, le compte à rebours tourne. Par où est-ce qu'il compte commencer pour redresser une situation pareille avant 2030?
La première étape, c'est la plus évidente, le hardware, la brique et le mortier, si tu veux. Un article explique que le plan prévoit de moderniser les services d'urgence des hôpitaux publics. Ils sont souvent saturés avec du matériel d'un autre âge.
Donc, plus de lits, des nouveaux scanners, du matériel de radiologie?
C'est ça.
D'accord. Mettre à niveau le matériel. Mais si les ambulances continuent de se perdre en route ou que les hôpitaux ne se parlent pas, ça ne règle pas le problème de fond.
Le problème de fragmentation.
Exactement.
Et c'est là qu'arrive ce que le magazine présente comme la vraie révolution, la pierre angulaire de tout le projet AI, la création d'un réseau intégré. L'idée, c'est de construire le cerveau du système.
Un cerveau, c'est-à-dire
une plateforme numérique centralisée, une sorte de tour de contrôle des urgences à l'échelle nationale. L'article la décrit très bien. Elle coordonnerait en temps réel absolument tous les acteurs. SAMU, protection civile, ambulance privée, lits d'hôpitaux, cliniques.
Donc, si je comprends bien, c'est un peu le Uber des ambulances.
C'est un peu ça, oui.
L'opérateur ne cherche pas une ambulance, il voit sur une carte la plus proche, qu'elle soit publique ou privée, et il l'envoie.
C'est exactement ça. La plateforme gère la géolocalisation de l'incident, l'affectation du véhicule le plus pertinent, et, point crucial, elle suit en direct la disponibilité des lits.
Ah, ça c'est énorme!
Fini le tourisme sanitaire où une ambulance fait le tour de 3 hôpitaux qui refusent le patient par manque de place.
Ça changerait tout! Et cette digitalisation, c'est un axe majeur du plan Enul.
C'est le moteur de la transformation. Un article entier y est consacré. On parle d'intelligence artificielle pour aider à trier les appels, à identifier instantanément la gravité d'une situation pour envoyer les bonnes ressources.
D'accord.
On parle aussi beaucoup de télémédecine pour désengorger les urgences et surtout pour atteindre les zones isolées. Un premier diagnostic par vidéo peut sauver un temps précieux.
Et pour le citoyen lambda, ça se traduirait comment, concrètement ?
Par une application mobile simple, intuitive. Tu as une urgence, tu appuies sur un bouton, tu es géolocalisé. Et l'appli peut même te donner des instructions en direct pour les gestes de premier secours en attendant l'aide.
D'accord, la technologie est vraiment au cœur du réacteur. Mais pour que ce réseau fonctionne, il faut inclure tout le monde, y compris le secteur privé dont on disait qu'il était un peu chaotique.
C'est le quatrième grand pilier, les partenariats publics-privés, les fameux PPP. Le magazine est très clair là-dessus. Le privé n'est pas vu comme un problème, mais comme une partie indispensable de la solution. Leurs cliniques sont modernes, ils ont des ressources.
Ça semble logique sur le papier. Mais est-ce que ça ne risque pas de créer une médecine d'urgence à deux vitesses? Les riches dans les cliniques privées bien intégrées et les autres dans le public?
C'est le risque énorme que le dossier souligne. C'est pour ça qu'il insiste sur un point. Pour que ce partenariat fonctionne, il faut un cadre réglementaire en béton armé.
Un cahier des charges unique pour tout le monde.
Voilà, public et privé, avec les mêmes standards de qualité, de formation et surtout de tarification. Sans ça, le partenariat pourrait virer au cauchemar.
Ce plan est incroyablement ambitieux. Mais on en revient toujours au même point. Qui va piloter ces nouvelles ambulances, faire tourner ces scanners et gérer cette plateforme? On ne peut pas digitaliser un médecin.
On touche au nerf de la guerre. Évidemment, le plan prévoit des programmes massifs de formation. Mais un des articles est particulièrement lucide.
C'est-à-dire ?
Il ne suffit pas de former, il faut surtout réussir à garder ces gens-là. Le travail aux urgences, c'est un sacerdoce. Le stress, les nuits blanches, la violence parfois, le burn-out est une menace constante.
Et on ne résout pas ça avec un nouveau diplôme ?
Non. Le magazine insiste sur la nécessité de revaloriser ce métier. Ça passe par le salaire, bien sûr, mais aussi par une reconnaissance de la pénibilité et un soutien psychologique constant pour ces équipes qui sont sur le front.
C'est une vision à long terme, mais à court terme, pour 2030, comment on comble le manque criant de cadres expérimentés pour piloter tout ça?
Alors là, il y a une idée que j'ai trouvée géniale. Un peu en marge du dossier principal, dans une tribune signée par un certain docteur Anouar Cherkaoui, il propose une solution hyper pragmatique.
Je suis curieux.
Il dit, en substance, on a un trésor inexploité. Des dizaines de hauts cadres de la santé, des directeurs d'hôpitaux, des grands professeurs, qui sont partis à la retraite, mais qui sont encore pleins d'énergie et de savoir-faire.
Et donc ?
Son idée, c'est de créer des contrats de mission temporaire pour eux. Les faire revenir pour quelques années afin de structurer les nouvelles agences régionales de santé, former la nouvelle génération et transmettre leur expérience.
C'est une sorte de mercato des retraités de la santé. C'est malin. On utilise une expérience qui sinon serait perdue.
C'est une vision très agile de la gestion des compétences qui sort du carcan administratif un peu rigide. Et en parlant de l'humain, le dossier n'oublie pas une dimension souvent négligée.
Laquelle ?
L'urgence psychologique. Un article entier y est consacré. Il rappelle qu'un événement comme la Coupe du Monde, avec des foules immenses, peut générer du stress, des mouvements de panique, des crises d'angoisse.
Surtout en cas d'incident, oui.
La prise en charge ne peut pas être que physique.
C'est une leçon qu'on a apprise durement lors de d'autres grands rassemblements.
Exactement. Le plan doit donc prévoir des cellules de soutien psychologique mobiles près des stades et des fan zones. Et surtout, former tout le personnel en contact avec le public, des stadiers aux volontaires, à repérer les signes de détresse psychologique.
En prenant un peu de recul, ce qui me frappe, c'est l'ampleur de la tâche. On a l'impression que c'est tout le pays qui est en chantier, pas seulement le système de santé.
C'est ce que la lecture complète du magazine révèle. Ce dossier sur la santé s'inscrit dans un contexte bien plus large. Dans une autre section, on lit un article sur la stratégie hydrique du Maroc, 17 usines de dessalement, 155 nouveaux barrages pour lutter contre le stress hydrique. Ailleurs, on apprend que le pays est pilote pour un nouveau visa 100% digital avec le Canada.
La santé n'est qu'une facette, en fait.
C'est une facette d'une modernisation générale.
Et c'est là qu'on comprend le vrai rôle de la Coupe du Monde.
Précisément. Elle n'est pas la cause de ces réformes, elle en est l'accélérateur. C'est l'échéance non négociable, la deadline, qui force à passer des plans sur le papier à la réalité du terrain.
L'événement sportif est presque un prétexte.
Un prétexte au sens noble pour mener des transformations structurelles qui étaient nécessaires depuis longtemps. L'héritage de 2030, il se jouera bien au-delà des terrains de foot.
Si on résume, ce que nous apprend ce dossier, c'est que la Coupe du Monde 2030 est le déclencheur d'une véritable révolution pour la santé d'urgence au Maroc.
Tout à fait.
Un plan massif qui combine des infrastructures modernes, une technologie de pointe pour tout connecter et un investissement crucial dans le capital humain. L'objectif final, c'est de laisser un héritage qui servira à toute la population.
L'éditorial parle de marquer un but symbolique pour le pays. Un système d'urgence efficace, c'est des vies sauvées tous les jours, mais c'est aussi un argument majeur pour l'attractivité du pays. La boucle est bouclée.
La vision est claire, le plan semble solide.
Mais, en lisant tout le magazine, une dernière question me vient. Elle est soulevée par une autre tribune, beaucoup plus virulente, intitulée « La foire ».
La foire ?
Oui, et l'auteur y dénonce les réseaux sociaux comme un lieu où la désinformation, les charlatans et les gourous pseudo-scientifiques prospèrent.
Je vois où tu veux en venir.
Le plan pour gérer l'urgence physique, médicale, logistique est incroyablement détaillé. Mais qu'en est-il de l'autre urgence, celle de l'infodémie ?
L'intox.
Exactement. Imagine un incident, même mineur, pendant la Coupe du Monde. En quelques minutes, des rumeurs, des fausses informations, des vidéos truquées peuvent se propager, créer la panique, saturer les lignes d'urgence pour de mauvaises raisons.
Et mettre en péril la sécurité réelle ?
La question qui reste en suspens est donc... La gestion de l'information de crise est-elle aussi bien planifiée que la gestion des ambulances ? C'est peut-être ça, le prochain grand chantier.